Nous sommes toujours au chapitre 10 de l'Évangile selon Jean. Et nous parlons de Jésus, notre berger. Et dans ces versets, on trouve que Jésus est la source de vie. Jésus est aussi un sauveur qui divise. Et la dernière fois, on a considéré le fait que Jésus, par son enseignement direct et assez sévère, a créé la division entre lui et les chefs religieux d'Israël. Et ils ne voulaient pas accepter ce que Jésus a dit. Et à la fin, ils étaient prêts de continuer avec leur dessein de tuer Jésus. Voilà. Mais Jésus aussi, il a créé la division parmi le peuple. Ce n'était pas que les chefs d'Israël, les dirigeants religieux qui étaient les méchants, mais parmi le peuple, il y avait de la division aussi. Parce qu'on lit au chapitre 10, vers la fin du chapitre, le verset 39, à 42, ces mots. Là-dessus, ils, et ce sont les chefs, cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Il y avait des gens qui crurent en Jésus, mais il y avait aussi des personnes qui ne croyaient pas. Et ce soir, je veux considérer ce que ce passage en particulier nous donne, nous enseigne par rapport à la division parmi le peuple. Et nous le vivons aujourd'hui aussi, parce qu'il n'y a pas tout le monde autour de nous qui croit comme nous. Et on voit dans nos villes, peut-être au bureau, une division entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et je pense que ce passage peut nous aider. Voilà, on va considérer d'abord le fait que Jésus, en tant que l'objet de foi, divise le peuple du monde. C'est-à-dire, Jésus est au centre. D'accord? On doit garder toujours le fait que Jésus est au centre de l'univers. C'est lui qui dirige tout. Il est le souverain des souverains, le roi des rois. Et il est au centre. Le christianisme ne divise pas, bon, il ne doit pas diviser à cause d'autres choses. C'est Jésus toujours qui est au centre et qui cause la division. Et c'est notre foi qui doit causer la division aussi. C'est-à-dire, je ne dois pas causer la division parce que je suis méchant, parce que je suis bizarre, parce que je suis trop exigeant. Ce qui doit causer la division, c'est ma foi en Jésus-Christ. Et si une personne me rejette parce que je crois en Jésus-Christ, ça c'est la vie que je dois vivre. On peut dire que Jésus provoque toujours une réponse parce qu'il est toujours en train de nous appeler à croire en lui. Jésus ne dit pas, bon, si vous voulez croire, ça va, sinon ça va. Il dit non, croyez en moi. Et on doit toujours répondre avec quoi? Un oui ou un non. Il n'accepte pas, bon, peut-être, moi, je suis neutre. Non. Oui ou non. Et cette foi en Jésus est la distinction primordiale entre ses brebis et ceux qui ne sont pas de sa bergerie. Et dans la similitude qu'il utilise au verset 1 à 4, D'accord? Jésus montre l'existence de cette division parmi les brebis. Bon, c'est vrai que cette similitude vise en premier les bergers, les chefs religieux, mais dans la similitude, on observe le fait qu'il existe une division parmi les brebis. Et comment on le sait? Parce qu'il y a des preuves qu'une division existe. Au verset 3, par exemple, on observe que certains brebis appartiennent au vrai berger. Le vrai berger appelle par nom ses propres brebis. Et il ajoute les mots qui lui appartiennent. Ces mots implique qu'il y a des brebis présentes qui n'appartiennent pas au berger. Ouais, c'est logique, c'est pas difficile. Sinon, le berger appellerait par nom ses brebis et pas de raison pour ajouter qui lui appartiennent. Je pense que ça, c'est clair. Et cette compréhension de la similitude correspond bien avec la coutume de l'époque où plusieurs bergers mettaient leurs brebis dans la même bergerie pendant la nuit. Et le matin, ils arrivent, ils appellent leur brebis et ils sortent avec le vrai berger. Et au verset 4, on constate que cette dernière observation est justifiée. Parce qu'il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, c'est-à-dire le mot propre indique qu'il y a certains brebis qui sont à lui, et certains brebis qui ne lui appartiennent pas. Et au verset 5, cette relation ou cette affiliation entre les brebis et le berger est soulignée par l'idée de l'étranger. Si on n'appartient pas à un berger spécifique, on ne peut pas estimer un berger comme un étranger. C'est-à-dire, il faut un maître pour avoir des étrangers. Voilà. Et quelle est la nature de la division qui existe entre les brebis? Vous devrez suivre ma façon de penser. Hein? C'est un peu dur, j'imagine, mais moi, j'ai demandé, d'accord, il y a une division, mais quelle est la nature de la division? C'est entre les brebis blanches et les brebis noires ou quoi? Non. Dans ce passage, on a la nature de la division qui existe entre eux. Et l'enseignement de Jésus est clair. Il existe une division parmi les brebis. Mais nous sommes laissés avec une question. Quelle est la nature de la différence entre les brebis? Et Jean nous dit que les chefs religieux ne comprennent pas la similitude. Jésus continue donc à enseigner. Et son enseignement au verset 7 à 18 avance notre compréhension de la nature de la division parmi les brebis. Et dans cette section de l'enseignement, l'utilisation des prépositions possessives renforce notre observation qu'il y a une différence entre les brebis. Certains sont les brebis de Jésus et certaines brebis ne sont pas Jésus. Donc, au verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour qui? » Ses brebis, c'est-à-dire... Ça dit, ils sont à moi. Maintenant, Thomas, il ne peut pas parler vraiment beaucoup, mais il peut dire la mienne, le mien. Et il le dit tout le temps. Parce qu'on est né avec ce désir d'avoir, de posséder, n'est-ce pas? Mais Jésus peut dire, je possède ces brebis, ils sont à moi, ils appartiennent à moi. Au verset 14, je connais qui? Mes brebis, et elles me connaissent. Au verset 15, je donne ma vie pour mes brebis. Ils sont à moi. Au verset 16, j'ai encore d'autres brebis. Celles-là, il faut que je les amène. Ces quatre versets indiquent qu'il y a une division parmi les brebis. Certaines appartiennent à Jésus et les autres ne lui appartiennent pas. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette section qui nous est clair par rapport à la nature de cette distinction parmi les brebis? C'est-à-dire, pourquoi? comment savoir si une brebis est à Jésus ou n'est pas à Jésus? Au verset 9, on voit d'emblée que Jésus est le point de division parmi les brebis. Il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et Jésus est le point de différence entre les brebis. Il divise ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Jésus est le moyen, Jésus lui-même est le moyen de sécurité. Donc, on entend beaucoup aujourd'hui. Hein? Toutes les religions sont pareilles. Hein? Si on croit, ça suffit. C'est faux, ça. Hein? Ça, c'est faux. Jésus est au centre. Il faut passer par Jésus pour avoir la sécurité. Et si on n'est pas en Jésus, on n'est pas sa brebis. Et ça va à l'encontre de notre société, mais il faut accepter, il faut le dire. Mais le verset 9, bon, c'est Jésus qui est au centre. Le verset 9 dit aussi le fait que la réponse des brebis contribue aussi à la différence parmi elles. Il dit, si quelqu'un entre par moi, on peut conclure donc que la nature de la division parmi les brebis est ceci. La relation qui existe entre les brebis et Jésus c'est cette relation qui cause la division entre le peuple. Ça, c'est simple et clair. Si une personne croit en Jésus, une autre personne ne croit pas, il y a une division. Mais ça, c'est la division entre les brebis. C'est leur relation avec Jésus. Ce n'est pas le fait qu'ils étaient dans la même bergerie. Ce n'est pas le fait oui, je sais qu'il y a un berger qui s'appelle Jésus. Il faut une relation avec ce berger qui dit, tu es la mienne et moi, j'appartiens à toi. C'est une relation très intime entre nous et le berger. Voilà, tout cela, c'est assez fondamental, on peut dire, mais c'est important quand même. Nous appartenons à Jésus, si nous sommes en lui par la foi. Et il dit de chacun de nous, tu appartiens à moi. Toi, tu appartiens à moi. Moi, je suis ton berger. Quelle bénédiction d'avoir un tel berger. Voilà. Ça, c'est la nature de la relation entre les brebis et Jésus. C'est une relation par la foi. Maintenant, on va explorer la nature de la foi de ceux qui croient en Jésus. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, peut-être, quand j'étais jeune, j'ai entendu chanter l'homme George Michael, « Gotta have faith, il faut la foi ». Mais ce n'était pas un homme qui avait la foi en Jésus-Christ. Quelle est la foi? Il faut croire, oui, mais il faut croire en un objet, hein, on croit. Quelle est la nature de leur relation, de leur foi? Leur foi est active, on peut dire. Regardez au verset 3. Au verset 3, on lit, le portier lui ouvre la porte au berger, et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Il se laisse conduire par leur brebis. Il répond par leur berger. Les brebis répondent à Jésus, leur brebis. Au verset 4, les brebis suivent leur berger parce qu'elles connaissent sa voix, et en suivant, ils mettent leur confiance en lui. Au verset 5, une vraie brebis fuit d'un faux berger. C'est-à-dire, si on voit une personne qui suit n'importe qui, N'importe quelle personne qui dit n'importe quoi. On doit poser des questions. Est-ce que cette personne, est-ce que cette brebis connaît vraiment le bon berger? Parce qu'une vraie brebis fuit d'un faux berger. Au verset 8, une vraie brebis n'écoute pas un faux berger. Au verset 9, une vraie brebis entre par Jésus la porte. Elle entre. Au verset 10, une vraie brebis connaît Jésus son berger. Au verset 11, une vraie brebis entend la voix de Jésus. Et au verset 27, une vraie brebis entend la voix de Jésus et le suit. C'est-à-dire, c'est quoi une vraie brebis de Jésus? C'est une brebis qui écoute le berger et qui le suit. C'est là, n'est-ce pas? Oui, on ne peut pas nier. Voilà. Mais bien sûr, l'évangile selon Jean ne présente pas les brebis de Jésus, c'est-à-dire ses disciples, comme des brebis qui n'ont jamais besoin d'être reprises parce qu'elles le suivent parfaitement et elles le comprennent totalement. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Jean non plus. Au chapitre 4, Jésus reprend ses disciples concernant leur perception des Samaritains. Pierre est repris par Jésus pour son manque de compréhension au chapitre 13 et au chapitre 14. Jésus reprend Philippe pour son manque de compréhension. Et bien sûr, juste avant sa crucifixion, tous les disciples abandonnent Jésus, leur maître, leur berger. Mais cela dit, malgré toutes les imperfections des disciples, ils étaient ceux qui disaient « Tu as les paroles de vie éternelle ». D'accord? Même avec tous leurs péchés, il revient chaque fois pour dire à Jésus, c'est toi qui as les paroles éternelles. Et ça, c'est un peu la nature de leur foi. Il suit, il écoute, il chute, mais il revient chaque fois. Et ça, c'est la nature d'une vraie brebis. Mais maintenant, on doit explorer aussi une question qui est soulevée par Jésus, et ça, c'est la cause principale de la foi en Jésus. D'accord? La cause principale de la foi en Jésus. Bon, on a vu que la division parmi les Juifs existe en raison de la foi mise en Jésus. Le monde est divisé en deux, ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne croient pas en lui. Et cette foi répond positivement à Jésus en l'écoutant et en le suivant. Ce passage touche aussi sur une autre facette de la foi, la cause principale de la foi qui sauve. Dans l'enseignement de Jésus, nous trouvons deux affirmations qui nous révèlent la cause principale de la foi qui sauve. D'accord, on a la première affirmation, d'accord, au verset 26. Jean 10, 26, où Jésus dit, « Vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Il faut poser une question. Qu'est-ce que Jésus veut-il dire ici? C'est une bonne question, je pense. Bon, au verset 25, Jésus vient de dire que ses œuvres rendent un témoignage fort par rapport à son identité. Mais les Juifs, et surtout les chefs des Juifs autour de lui, ne le croient pas. Comment une telle incroyance est-elle possible face aux preuves? C'est-à-dire, Jésus vient de guérir un homme qui, pendant 40 ans, ne pouvait pas voir. Jésus le guérit, et les hommes ne croyaient pas. Bon, je me souviens bien, j'étais en Australie, il y avait un garçon qui avait 12 ans, je pense, quelque chose comme ça. Il m'a dit, si seulement on trouvait l'arche de Noé, je croirais que Jésus est vrai. Je dis, pourquoi l'arche de Noé? Mais ça, c'est notre sentiment. Si je peux voir, je peux croire. Mais ce n'est pas vrai. Il y avait des hommes qui ont vu des miracles. Et ils ont répondu avec l'incroyance. Et ça doit soulever la question, pourquoi? Pourquoi? C'est bizarre. Peut-être c'est bizarre, mais peut-être pas. Jésus nous explique leur incroyance au verset 26. Et notons que le verset se divise en deux parties, d'accord? C'est assez clair, mais la première partie donne l'état actuel, c'est-à-dire ils ne croient pas en Jésus. Et une autre partie, la deuxième partie, donne la cause. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà. Est-ce que vous voyez? Vous ne croyez pas. Et la cause, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et tous ensemble? Oui, c'est pas difficile. Hein? Vous pouvez le faire, ce que je suis en train de faire. Les mots « de mes brebis » nous indiquent la raison pour laquelle ces Juifs ne croient pas. De mes brebis signifie qu'ils n'appartiennent pas à la bergerie de Jésus. Ils ne font pas partie de ces brebis. Jean utilise la même formule en Jean 7, 5 ans, quand il parle de Nicodème. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit... Les mots l'un entre deux, signifient le fait qu'ils appartiennent aux pharisiennes. Selon Jésus, ceux qui font partie de ses brebis le croient, et ceux qui n'appartiennent pas à ses brebis ne croient pas. Mais ça, c'est assez évident. Vous voyez, hein? On peut dire qu'un chrétien croit, mais par définition, un chrétien croit. Ça se signifie quoi? Ça communique quoi à nous? Bon, maintenant je vais vous donner une interprétation du passage. D'accord? J'ai soulevé la question. J'essaie de mettre le verset devant nous, deux parties. État actuel, la cause. Ils ne croient pas parce qu'ils ne font pas partie de ces brebis. Mais ça veut dire quoi? Dans cette affirmation, Jésus lie leur incroyance à leur identité. Ce n'est pas un manque de compréhension chez eux, et ce n'est définitivement pas un problème de communication chez Jésus. La preuve est suffisante. Le problème réside dans leur identité. Il me semble que cette affirmation peut être comprise de deux manières différentes. Que j'essaierai d'illustrer d'un autre domaine de la vie. D'accord? Il se peut, lors d'une vie en couple, qu'une femme dise à son mari, « Tu ne me trompes pas parce que tu n'es pas une femme. » Bon, j'ai lu quelque chose comme ça dans un livre, je ne connais pas par expérience. Hein? Mais comment interpréter la deuxième partie de l'affirmation qui donne la cause de son incompréhension? Une compréhension incroyable chez la femme. Mais on peut prendre la cause qu'elle donne comme un commentaire sur l'action du mari, ce qu'il fait. Hein? C'est-à-dire, être un homme est égal à appartenir au groupe qui choisit de ne pas comprendre la femme. Et dans ce cas, nous interprétons son affirmation comme une tautologie, hein, c'est-à-dire la répétition d'une idée d'identique. Une répétition d'une idée identique. Voilà. C'est-à-dire, tu ne me comprends pas parce que tu ne me comprends pas. Bon. Je ne pense pas que ça, c'est ce qu'elle veut dire. Pour retourner à notre texte, cette compréhension signifie que Jésus dit, « Vous ne me croyez pas parce que vous appartenez au groupe qui choisit de ne pas me croire. » Si l'accent est mis sur l'action, d'accord, Jésus voulait dire, « Vous ne me croyez pas parce que vous ne me croyez pas. Bon, cette interprétation me semble peu probable, franchement. Ou on peut prendre la cause qu'elle donne comme un commentaire sur l'identité ou l'essence du mari. C'est-à-dire un homme, parce qu'elle a dit « tu n'es pas une femme », par nature ne comprend pas une femme. Pas tout le temps. Pas la majorité du temps, je ne sais pas. Être l'homme est égal à avoir à l'identité de quelqu'un qui ne comprend pas ceux qui ont l'identité d'une femme. La femme dit en effet, « Ta présente incompréhension de moi, une femme, découle de ton identité du fait que tu es un homme, un être qui par nature ne comprend pas la femme. » Bon, si on applique cette compréhension au texte, Jésus dit, vous ne me croyez pas parce que vous n'avez pas l'identité, l'essence d'une personne qui croit en moi. Vous voyez? Il ne dit pas, vous ne croyez pas parce que vous ne croyez pas. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous avez l'identité de quelqu'un qui ne croit pas. Ou pour le dire d'une manière positive, l'identité, faire partie de ces brebis, est la cause de leur foi. Et j'ajoute, en parenthèse, et si l'homme arrive à comprendre sa femme, elle répétera les mots de Jésus à Pierre, ah, « Tu es heureux, mon mari, car ce ne sont pas la chair et la sang qui t'ont révélé cela. » Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ouais. Ouais. Parfois, ça, c'est vrai. Il faut une œuvre surnaturelle. Hein? Voilà. Mais comment cette interprétation du passage s'accorde avec le contexte de l'Évangile? Bon, quand on étudie la Bible, il faut toujours regarder au contexte. Le contexte proche, bien sûr, ça c'est le plus important, mais aussi le contexte plus grand du livre, de l'Évangile, de Nouvelle Alliance. Cela dépend où on est dans la Bible, bien sûr. Cette illustration est assez amusante parce qu'elle touche sur une vérité qui nous affecte quotidiennement si nous sommes mariés. Notre capacité est limitée par notre identité. Qui nous sommes. Ce n'est pas la première fois que Jésus a exprimé une telle pensée. Par exemple, au chapitre 8, d'accord, Jésus a dit presque la même chose quand il a dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Je pense que ça, c'est vers le verset 39. « Si Dieu était votre père, vous m'aimerez. » Parce que c'est Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, en vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, de ce qu'il est, son identité, son essence. Car il est menteur et le père du mensonge. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Leur identité donne leur réponse. Chapitre 6. Ce genre de pensée apparaît aussi au chapitre 6 où Jésus dit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, il est écrit... » Bon, je saute un peu. « Il est écrit dans le prophète. Ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » C'est qui vient? Ceux qui ont reçu. Ce sont les versets 44 à 45. Et plus tard, dans le même chapitre, Jésus dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelqu'un qui ne croit pas. Car, en parenthèse, Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et, bon, il vient de dire, quelqu'un qui ne croit pas. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Ce sont les versets 63 à 65. Au chapitre 3, cet enseignement du chapitre 10 correspond à l'enseignement de Jésus donné à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'est-on pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui contrôlons le vent, ni l'esprit. Et au chapitre 1, et on trouve que Jean a introduit d'emblée cette idée dans le prologue de son évangile. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la bonté de l'âme, mais de Dieu. 12 et 13. En réponse à l'incroyance des Juifs, Jésus dit au verset 26 du chapitre 10 qu'ils ne croient pas parce qu'ils ne sont pas des brebis, ils n'appartiennent pas à sa bergerie. Leur incroyance est liée à leur identité. Et ça nous amène à une deuxième affirmation. Jésus ajoute au verset 29, on est maintenant au chapitre 10, que ceux qui font partie de ses brebis le font grâce au travail de son Père. Mon Père qui me les a donnés. Ce verset nous donne une deuxième affirmation sur la cause efficiente d'une foi qui sauve, l'action du Père. Selon ce verset, si quelqu'un appartient au groupe des brebis de Jésus, il est là parce que le Père l'a donné à Jésus. Même si cette affirmation ne donne pas tous les détails de comment ce placement se passe, elle signifie au moins que le Père donne une brebis à Jésus. Et cela suggère fortement une cause surnaturelle. Ouais. C'est Dieu qui fait. Maintenant, on va terminer avec deux mises en garde. Deux mises en garde. L'affirmation que la cause principale de la foi vient de Dieu ne nie pas la responsabilité des Juifs qui ne croyaient pas, parce qu'ils auraient dû croire. Ils sont condamnés à cause de leur manque de foi. Jésus les condamne clairement pour leur manque de foi face à ses œuvres, au verset 25. C'est vous avez la responsabilité à croire. Cette affirmation, ça c'est la deuxième mise en garde, ne va pas non plus contre l'évangélisation des personnes non-croyants. Jésus les appelle, même les chefs, Jésus les appelle à croire en lui, en raison de ses œuvres, au verset 38. Ce sont les mêmes hommes qui étaient tout au long de l'évangile en opposition contre lui, mais malgré ses œuvres miraculeuses. Et Jésus dit encore une fois, « Croyez en moi à cause de mes œuvres. » Bon, quelles sont les applications? Ça, c'est assez dense pour un mardi soir, hein? Mais il y a des applications pour nous. D'abord, ne soyons-nous pas découragés face à l'incroyance de nos familles, nos collègues, nos voisins ou nos camarades. C'est normal. Nous habitons sur un monde, dans un monde plein. Franchement, tout le monde est chuté. Ah non, déchu. Non? C'est déchu? Voilà. Bon, nous n'avons pas par nature le désir de croire en Dieu. Ça, c'est clairement dit dans la Bible. Mais ce n'est pas surprenant. Si mon voisin pense que Michael, il est bizarre. D'accord, ça ne me choque pas. Parce que Jésus déjà m'a dit que tu répondras comme ça. Je ne suis pas choqué, je ne suis pas découragé. Continuons d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui l'ont déjà rejeté. Qui parmi nous a accepté la bonne nouvelle la première fois? Personne, j'imagine. On continue comme Jésus a fait. On continue à donner la bonne nouvelle aux personnes qui ont déjà rejeté Jésus maintes reprises, maintes fois. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait et parce que notre confiance est en qui? En Dieu. Et on a déjà vu que la foi vient de qui? De Dieu. On doit mettre notre confiance en lui. Et ça, c'est la troisième application. Mettons notre confiance en Dieu pour le salut des incroyants. Et j'étais piqué par la parole. Je réfléchis, qu'est-ce que je peux dire la prochaine fois? Comment je peux répondre si une personne dit ça ou ça ou ça? Combien de versets ai-je dans le cœur pour répondre? Et tout cela, c'est bon. Mais je dois parler à Dieu pour leurs âmes aussi. Ça, c'est une application de ce passage. On doit prier pour les non-convertis parce que c'est Dieu qui donne les brebis à Jésus. Donc, on prie avec confiance que le Dieu d'amour répondra. Quatrièmement, remercions Dieu si nous faisons partie du troupeau de Jésus, parce que ce n'était pas que parce que nous sommes plus intelligents que les autres, ou plus importants. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous a cherchés et qui nous a sauvés. C'est dans le passage, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Nous n'étions pas partis. Nous ne faisions pas partie de ces brebis. Mais maintenant, nous sommes partis de ces brebis, grâce à lui. Et cinquièmement, j'ai mis « Demandons Dieu pour sa miséricorde en Jésus-Christ. » Parce que c'est vrai que nous, et nos amis, et nos collègues, et nos voisins, sont des misérables qui rejettent Dieu, qui ne répond pas à la bonté de Dieu. On a entendu dimanche, la bonté de Dieu est là pour nous pousser envers la repentance. Mais comment on répond? Avec l'ingratitude? Il faut prier la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères, et nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues, parce que Jésus est venu au monde pour sauver. Il veut sauver les âmes. Voilà, je pense que ça, c'est une partie de l'enseignement du chapitre 10. Et j'espère que ça nous donne encore un nouveau niveau d'appréciation pour Jésus, notre berger qui est venu pour nous. Prions ensemble. Père, nous ne sommes pas dignes de cet amour. Nous confessons nos péchés. nous confessons même en tant que chrétiens qui sont rachetés, affranchis, libérés, que nous sommes pleins de péché. Et nous sommes, comment dirais-je, nous sommes désolés, ça c'est trop faible. Mais tu sais ce que je veux dire. Donne à nous chacun un nouveau niveau d'appréciation, de reconnaissance. Reconnaissance, ça c'est mieux. Pour le Seigneur et pour son œuvre dans nos cœurs. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.